Bonsoir. Eh bien, nous sommes très heureux de retrouver Carole Desbarra et de vous retrouver pour ce cycle, ce regard critique de Carole Desbarra, intitulé, comme vous savez, Autre chose, le cinéma, dit-il, autre chose. Donc, il s'est interrompu pendant les vacances après le deuxième épisode. Et en fait, on pourrait dire, donc cette séance-là sera consacrée au savoir, et on pourrait peut-être dire que Carole Desbarra, sur cette question de l'autre chose, a choisi de mettre à l'épreuve la capacité du cinéma à visiter autrement les choses à travers les grandes questions de la pensée, puisque dans une première séance, on a abordé la question de l'homme, de l'humanité, pour ne pas se faire les hommes, et donc de l'humanité, pour ne pas se faire attaquer pour sexisme, à juste titre. Ensuite, on a abordé le temps, ça c'est une grande question. Et maintenant, c'est le savoir, avec à la fois la question de savoir justement si le cinéma permet de découvrir d'autres savoirs et aussi l'autre regard sur le savoir que permet le cinéma. Voilà. Carole, c'est à vous.
Oui, bonsoir, merci d'être là. Je reconnais certaines têtes et je dois dire que c'est agréable de savoir que certains d'entre vous suivent, ce qui veut donc dire que leurs critiques vont être encore plus acérées après, puisque nous avons un débat après. Je voudrais juste dire pour ceux d'entre vous qui sont venus voir cette rareté absolue qui est René, que vous allez devoir me subir avant, il y aura des extraits de films avant, il y aura René, après il y aura encore des extraits de films et un débat. Je veux dire par là que ça n'est pas juste la projection de René, comme certains d'entre vous l'ont cru, c'est un ensemble qui vous propose une réflexion. Donc, patience, vous verrez René, c'est quelque chose qui est rare comme film. D'ailleurs, je dis tout de suite que la copie est en mauvais état et que ce n'est pas la faute du centre, mais que vraiment, déjà, on est très content d'avoir trouvé la copie. Je sais que si vous avez, pour certains d'entre vous, fait le détour, c'est bien que vous le saviez. Donc, on commence tout de suite avec, effectivement, cette chose très complexe, la science toute puissante, telle qu'on la connaît dans notre société, l'art tout puissant tel qu'il est pensé par une petite partie de la population, un face-à-face qui pourrait donner quelque chose qui serait de l'ordre du lieu commun, et en même temps nous allons essayer d'en faire autre chose ensemble pendant 2 heures. Commençons tout de suite, si on veut bien envoyer le premier film. Oui, vous connaissiez certainement les films de Jean Painlevé, peut-être celui-là aussi. Je l'ai pris pour commencer parce que je trouvais qu'il plantait bien le problème. Tant qu'à parler du savoir, on peut peut-être commencer par ce qui est le plus évident, c'est-à-dire les films qui veulent transmettre du savoir, donc la vulgarisation scientifique. Nous parlerons d'autre chose, bien évidemment, des films qui transmettent un autre savoir que celui qu'ils souhaitaient passer, les films qu'ils n'en transmettent pas, et les films qui sont à la fois dans le documentaire et qui nous font rêver sans nous donner de savoir, et les films qui sont dans la fiction et qui nous apportent des choses que nous ne connaissions pas. Évidemment, en 2h30, nous ne serons certainement pas exhaustifs, donc nous allons simplement essayer de creuser quelques pistes qui permettent d'approcher, en tout cas des questions, sur cette façon que pourrait avoir le cinéma de dire autre chose et de nous apporter d'autres savoirs. Alors, ces liens entre l'objectif premier posé par la vulgarisation et ce qu'apporterait d'autres un film, il me semble que Painlevé les permet vraiment parce que, si vous voulez, ce désir de vulgarisation a été très fort chez ce cinéaste. Ça s'est affirmé très très tôt. C'est quelqu'un qui a fait 200 films au moins et 200 films courts. Ne croyez pas que ce soit vite fait parce que vous imaginez bien que dès qu'on touche à ce qui est le cinéma animalier, on a affaire à des problèmes matériels sans nom, dont le temps n'est pas le moindre. Je vous donne juste un exemple. Painlevé a fait un film sur les amours d'une pieuvre. Il l'a filmé pendant 10 mois d'août pour faire un tout court-métrage, c'est-à-dire pendant 10 ans pour obtenir de pouvoir parler des amours d'une pieuvre. Donc c'est une passion tout à fait importante. On pourrait dire que quand on l'entend parler, il y a une très belle émission d'Hélène Azera, qui est justement pour la télévision, qui nous donne l'occasion de voir ce monsieur très raide, qui dit sa passion avec une espèce d'élégance des hommes qui sont nés au début du siècle dernier. Et il dit que quand il avait 9 ans, il allait au bassin de Roscoff voir les pieuvres tous les après-midi pendant 2 mois. C'est une anecdote, bien évidemment, mais quand on sait qu'ensuite il a passé sa vie à filmer des crustacés, des oursins, des poissons, on se dit que quand même il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une passion très forte. Alors je sais, c'est un peu une critique lansonienne, et tout à l'heure j'aurai l'occasion de critiquer un peu cette façon un peu ancienne de voir les films qui consistent à se rapprocher de la vie de leur auteur. Mais par certains aspects, ça peut tout à fait être utile, surtout lorsqu'on arrive à voir quel est l'enjeu libidinal qu'il y a dans un film. C'est tellement dur de faire un film qu'après tout, tant mieux si les cinéastes y éprouvent du plaisir. Donc il y avait cette très grande attirance vers le monde de la mer, et puis aussi une très grande croyance dans la question de la vulgarisation. Dans cette même émission, Painlevé dit, avec toujours cette espèce d'allure altière comme ça, et très stricte, il dit cette chose très simple, en parlant de la vie des animaux et de ce qu'il voyait d'extraordinaire dans cette vie, il dit « il fallait le croire, et pour le croire, il fallait le voir ». Je sais bien ça, un côté Saint Thomas, mais c'est une des bases du cinéma scientifique, c'est cette idée que le visible peut donner quelque chose à voir. C'est quelque chose qu'il disait vers 1950. Je pense qu'en 2010, on est nettement plus en recul sur l'idée que nous pouvons croire ce que nous voyons. Le spectateur a pris des distances, en particulier depuis la naissance du numérique. Nous savons que nous sommes dans l'ère du soupçon. Nous savons que ce qui est visible n'est pas forcément crédible. Mais c'est tout à fait passionnant de voir qu'il y a 60 ans, 70 ans, quelqu'un pouvait affirmer avec force et conviction que si c'était sur l'écran, c'était vrai, et donc si c'était vrai, c'était apporté à la connaissance des spectateurs. Donc ce côté plaisir personnel, cette foi dans les films scientifiques, c'est quelque chose qui fait que, je crois, les films de Painlevé sont traversés par une matière qui n'est pas que une matière de connaissance. De toute façon, les scientifiques de son époque l'ont critiqué vertement, et pour deux raisons. Une qui vous a fait sourire, je vous ai entendu, c'est l'anthropomorphisme. C'est l'hippocampe qui roule des yeux révulsés parce qu'il est en train d'accoucher. Petite parenthèse, c'est quand même tout à fait intéressant de voir un élément du monde vivant masculin accoucher. C'est pas si souvent que ça. Il y a le film de fiction de Jacques Demy sur l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, où il imagine que Mastroianni est enceint, mais sinon, c'est une rareté. Et c'est tout à fait intéressant. Donc ce côté anthropomorphique, mais qui est relativement limité, je veux dire qu'à côté de Walt Disney, on est là dans la grande rigueur scientifique. Il y a quelques adjectifs, de temps en temps, dans le commentaire, qui donnent à penser qu'effectivement, il y a une assimilation à l'être humain, mais c'est relativement réduit. Et il y a autre chose aussi, bien évidemment, c'est qui a été critiqué par les scientifiques, c'est la musique. Vous avez noté que c'est une musique de Darius Milhaud. Il arrive que ce soit des musiques de musiciens beaucoup moins célèbres, beaucoup inconnus. On peut dire aussi que le fameux film dont je vous ai parlé tout à l'heure, Les Amours d'une pieuvre, a eu une musique de Pierre Henry. Donc il y a quand même un travail sur la musique qui, on le comprend, a un peu hérissé les scientifiques. Pourquoi ? C'est simple. Si vous mettez de la musique, vous jouez sur l'émotionnel. Si vous jouez sur l'émotionnel, vous distrayez de la rigueur scientifique et de la façon dont le savoir pourrait passer. Pourrait. Je pense qu'ensemble, nous allons creuser la question de « et si le savoir passait aussi par l'émotion ?» Ce qui, pour moi, est quand même le fil rouge de cette soirée. La rigueur scientifique est-elle absolument en dehors de l'émotion ? Moi, c'est quelque chose sur quoi je me pose beaucoup de questions, mais il faudra un scientifique pour nous y répondre. En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'on a affaire à un documentaire de son époque. C'est un film de 1934. Quand je dis de son époque, c'est que vous avez une voix de commentaire assertive qui vous balance les vérités que je serais bien en peine de contester. Quand on vous décrit très précisément les organes, les uns après les autres, de l'hippocampe, sauf à être spécialiste, on entend et on prend la réponse. Mais simplement, ce qui se passe, c'est que dans le même temps où cette voix très précise et très affirmative nous transmet un savoir, l'organisation de la mise en scène nous dit autre chose. La façon dont le film est tourné, dont il est monté est quelque chose qui produit une sensation différente chez le spectateur de la façon dont il accepte les informations précises sur l'organique, le biologique, etc. Les plans sont très courts. Ça n'est pas forcément un effet de style. Parce qu'on est en début des années 30. Croyez-moi, construire une caméra dans un caisson étanche, à l'époque, c'était extrêmement novateur, extrêmement difficile à réaliser. Et un technicien de chez Pathé avait réussi à faire que le chargeur pour la caméra dans ce petit caisson étanche aille sur 7 mètres de pellicule, pas plus. Évidemment, ça veut dire qu'au montage ensuite, vous avez un maximum de 7 mètres. Hein. Vous ne pouvez pas faire un plan plus long. Donc ça explique une partie de la façon dont le montage est fait, mais il y a aussi, bien évidemment, tout ce désir de jouer sur le balai, sur la façon dont les formes s'enchassent les unes les autres. Et là, on est tout à fait ailleurs que dans le scientifique. On est dans le plaisir de l'œil, la sensualité presque tactile du spectateur à qui on donne à voir ces entrelacements organiques qui sont quand même souvent très, très sensuels. C'est d'ailleurs une des caractéristiques du cinéma de pain levé. Moi, je pense que c'est ce qui le différencie fondamentalement de Disney quand on parle d'anthropomorphisme, c'est que pain levé est toujours très intéressé par les questions d'accouplement. Et ça, c'est formidable. Parce qu'effectivement, voir les animaux s'accoupler, c'est quelque chose que notre pudeur souvent nous empêche de regarder quand on a l'occasion de le voir, ou on se sent mal quand on le regarde. Enfin bref, le donner à voir dans le système digne de la vulgarisation du Centre National du Cinéma est quelque chose qui offre une espèce de libération de l'esprit, et c'est tout à fait passionnant de voir ça. Donc ça n'est pas qu'un calque de l'humain, je crois qu'on a affaire là à une vision très personnelle du monde animal qui, bien sûr, revêt une inquiétante étrangeté. Enfin, je veux dire, c'est une banalité de le dire, mais il y a un moment où c'est à la fois familier et complètement étrange. Le monde du cinéma a reconnu les films de pain levé, et le monde de l'art aussi. Autant le monde scientifique a été en distance, autant les artistes s'y sont retrouvés. Brigitte Berg, qui est quelqu'un qui fait un très gros travail de conservation des films pain levé, Brigitte Berg disait que le 23 décembre 1930, pain levé a eu ce qu'elle appelle une légitimité esthétique lorsque son film Caprelle et Pantopode, ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est des petits animaux qui vivent sous la mer, mais c'est tout, a été diffusé aux côtés d'un film de Germaine Dulac, Disque 957, et de Alléluia de King Vidor. Et donc c'était les courts-métrages qui étaient avant le long-métrage de King Vidor, et avait assisté à ces séances Fernand Léger, qui avait trouvé que le ballet des hippocampes était magnifique. Chagall aussi avait beaucoup aimé ce film. C'est très curieux d'ailleurs parce que ce film a été distribué, ce qui n'a pas été le cas des autres films de pain levé. Il a été vu dans le système Pathé, et c'est important parce que du coup, ça a permis que le travail de vulgarisation touche non seulement un public directement intéressé par la science, mais également un public de cinéphiles. Et Henri Langlois, en 1954, a eu cette force, comme ce qu'il faisait, de diffuser les films de pain levé à côté des films de Marais. Et il avait décidé de supprimer le mot cinéma scientifique dans son programme et de le remplacer par avant-garde, en disant que c'était une façon de rendre véritablement hommage à ce cinéma qui, au départ vulgarisateur, se trouvait à l'arrivée, avoir parfaitement sa place dans une programmation d'art, comme ici au Centre Pompidou. Voilà pour pain levé, c'était juste pour se mettre en appétit et se dire que, effectivement, lorsque on croit donner un message, et on donne un message sur les hippocampes, on apprend des tas de choses sur les hippocampes, il y a autre chose qui passe en plus à travers le cinéma et qui se faufile. La libido d'un cinéaste, l'amour de la mer, la sensualité de la représentation. Nous allons complètement changer. Alors vraiment, vraiment. Je crois qu'il est très important, dans ce genre de rencontre, de passer à travers l'histoire du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais vous passer maintenant un extrait, en cabine, l'extrait numéro 2, d'un film qui date de 2009 et qui s'appelle The Cat, The Reverend and the Slave, de Alain de la Negra et Kaori Kinashida. C'est un film que je dirais très classique, beaucoup plus classique que celui que vous venez de voir. Mais c'est un film qui parle de choses qui ne sont pas classiques. Et là, je voulais quand même dire, ne cherchons pas les choses complexes inutilement, commençons par asseoir les bases, qu'effectivement, une des caractéristiques les plus fortes du cinéma qui permet de transmettre du savoir, c'est la question du montage, qui est spécifique au cinéma et qui permet justement que, parfois, quand c'est réussi, le cinéaste arrive à faire naître une idée, une sensation, une émotion, mais en tout cas une idée chez le spectateur. Je vous propose donc de voir les 6 premières minutes de ce film. Donc là, on est dans la configuration classique du documentaire qui vous donne à connaître ce que peut-être vous ne connaissiez pas. Je pense que vous êtes quelques-uns dans cette salle à ne pas avoir été sur Second Life, comme moi-même je n'y ai pas été. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir la perception d'un phénomène réel, l'addiction à Second Life, par des couples de personnes ou des groupes de personnes qui sont de catégories sociales différentes, tous américains, et qui parlent pour les uns de comment, effectivement, pour de bon, ils ont cette maison au bord de la plage que nous avons vue, et pour les autres, comment ça pourrait être un support publicitaire et de propagande pour développer l'action des Mother Earth, qui est ce groupe de jeunes femmes très Desperate Housewives. Donc, c'est vrai que là, ça pourrait tout à fait être comme un documentaire des années 50, non, plus tard, 70-80, c'est-à-dire sans voix de commentaire et dans lesquels on vous donne, par la simple comparaison, par le simple montage, à comprendre qu'effectivement, quand ils vivent dans ce trailer, dans ce mobile home, eh bien, ils sont très heureux d'avoir une maison aussi propre, nette, graphique que celle que nous avons vue dans les écrans filmés sur Second Life. Ce qui est assez frappant d'ailleurs, vous l'avez certainement remarqué, c'est que l'image est beaucoup plus piquée dans l'image de Second Life que dans l'image vidéo qui a été prise. C'est normal, c'est une image numérique, donc elle est d'emblée beaucoup plus précise que ne le sera la vidéo. Donc là, ça a beau traiter de quelque chose d'extrêmement contemporain, la facture est d'un classicisme total, et c'est quelque chose qui nous donne à connaître un secteur que, en tout cas moi j'ignorais, enfin je savais ce que c'était, j'avais lu des tas d'articles dessus, mais c'est en voyant comment ces personnes vivent leur passion pour Second Life et vivent dans Second Life véritablement, qu'effectivement on apprend à connaître quelque chose de notre présent. C'est une des fonctions du savoir. Là, je ne suis pas persuadée que le cinéma apporte véritablement autre chose, si ce n'est le côté très pratique qui consiste à mettre en juxtaposition absolue l'image réelle et l'image virtuelle. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui permet effectivement à la pensée de naître. Donc moi je dirais que la teneur en altérité là est plutôt basse. Hein. Donc on va aller vers quelque chose qui va justement aller vers une toute autre façon de présenter le savoir. On va revenir un peu vers le film de vulgarisation, parce que quand même c'est vrai que c'est en or, quoi, des films qui cherchent à vous faire transmettre une discipline, un savoir sur un terrain de l'expérience humaine, eh bien, on se dit que évidemment, il se colle à la question qui nous intéresse. Le film que nous allons voir, et on va en voir que juste la moitié maintenant, est un film d'Éric Rohmer. Et c'était important, puisque le « autre chose » qui sert de titre générique à tout ce cycle vient d'un texte que je vous lirai après, et qui est un texte d'Éric Rohmer. Vous saviez probablement qu'Éric Rohmer avait fait beaucoup de productions dans les années 50 et 60, de production pour le Centre national de documentation pédagogique. Et entre autres choses, il a fait des films sur la littérature, mais pas uniquement. Il a aussi fait des films sur le béton, le cancer, enfin bon bref, des choses extrêmement diverses par rapport à ce que nous connaissons de son cinéma. Ce film-là date de 1966, et pour vous le situer un petit peu dans l'œuvre d'Éric Rohmer, il est entre le sketch qu'il avait fait pour Paris Vu Part et qui s'appelait Place de l'Étoile, et un film qu'il va faire après sur Dreyer pour Cinéaste de notre temps, qui est un documentaire, mais pas pour le CNDP, là, il y a une plus grande ambition, on va dire, je pense sans difficulté, du côté des films que Janine Bazin et André Labarthe commandaient à des cinéastes. Et un tout petit peu plus tard, il va faire un film sur les Frères Lumière. Souvenez-vous de ça quand vous allez voir le film. Il y a un intérêt pour les Frères Lumière en 66, avant de faire son long métrage qui va vraiment le faire connaître du grand public et qui est La Collectionneuse en 1967. Donc vous imaginez bien que si on est sur le CNDP, on a une visée pédagogique affirmée avec une commande précise. Le film que vous allez voir se situe dans une collection qui s'appelle « En profil dans le texte ». Et c'est donc un film sur les contemplations de Hugo. Si vous avez un peu fréquenté l'œuvre de Romer, vous savez que Romer n'est pas quelqu'un qui est du côté du romantisme. On peut se disputer pour savoir s'il est du côté du XVIIe siècle ou du XVIIIe, ça c'est sûr, mais pas vraiment du XIXe. Même sa Marquise d'Eau est un film qui a quelque chose à voir avec la pensée du XVIIe et du XVIIIe dans un décor à la Fuseli, totalement du XIXe. Mais c'est donc intéressant de voir comment un cinéaste, qui est, je vous le rappelle, un ancien prof de lettres, hein, vous le saviez pour Éric Romer, eh bien, va se confronter à un grand texte de la littérature. Donc nous voyons là la moitié du film à peu près d'Éric Romer. Je ne me souviens plus si l'indication du lecteur est donnée dès le début. Si elle ne l'est pas, je vous le dis tout de suite parce que vous allez reconnaître sa voix. C'est Antoine Vitez qui lit les textes d'Hugo et l'autre voix, c'est celle d'Éric Romer. Là aussi, il y a une facture un peu particulière. Est-ce une façon de rendre hommage à Romer qui nous a quittés que de parler d'argent? Il y avait peu de cinéastes qui parlaient aussi intelligemment d'argent qu'Éric Romer. Il en faisait quelque chose dans son cinéma, dans son économie narrative, sans mauvais jeu de mots, qu'il avait développé il y a un an et demi, peu de temps avant de mourir, devant les élèves réalisateurs d'une école qui s'appelle la FEMIS. Et c'était très très émouvant parce qu'il expliquait comment il voulait être précis. Comment il veut être précis aussi bien sur les lieux que sur l'argent, que sur la façon dont il allait filmer ce qui l'intéressait de filmer. Donc commençons par les conditions strictes qui vont vous expliquer là aussi le montage du film. Il avait une caméra qui faisait des plans de 15 secondes. Là, c'est pas 7, c'est 15. Je n'ai pas fait exprès hein, dans le rapprochement. Il y a d'autres films documentaires, je vous rassure, pour le Centre national de documentation pédagogique, dont les films ont des plans d'une durée normale. Mais là, c'est un hasard. Et c'est quelque chose dont il a tiré une raison esthétique, je dirais. C'est-à-dire que cette caméra est une caméra mécanique. Pour quelle raison? Il n'y avait pas de crédit. Il ne pouvait pas partir avec une équipe, il est parti seul. Donc, il a pris une caméra dont il pouvait se servir seul. Cette caméra, c'est le grand chef opérateur Nestor Almendros, qui a été ensuite son chef opérateur dans les films suivants qu'il a lui a prêté. Et puis, anecdote, mais le cinéma est fait aussi de technique et de matière, cette caméra avait tourné à Cuba, dans des températures tropicales. À Jersey, il paraît qu'il faisait un froid de gueux, et donc il la mettait dans son lit pour la chauffer, la caméra. Et en fait, il a eu des problèmes de diaphragme, c'est-à-dire que comme c'était déréglé, ça s'éclairait brutalement. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a ensuite utilisé au montage. Et quand je vous disais tout à l'heure que ça n'est pas anodin que le film d'après, ou deux films après, il ait fait un film sur les Frères Lumière, quand vous voyez la façon dont est conçue l'organisation même de ce film, on a affaire à des plans lumière. Si vous connaissez les films des opérateurs lumière, il y a cette espèce de caméra fixe qui observe les choses sans intervenir, sans mise en scène, en choisissant simplement le moment où des choses vont se produire. Et on a un peu l'impression que c'est ce qui se passe. Et Hugo, me direz-vous. Alors bien sûr, il y a les contemplations, il y a cette méthode de travail de Romer, mais je ne suis pas sûre qu'on en apprenne autant sur le texte des contemplations que sur d'autres sujets dans ce film. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Il me semble que quand on voit ce film, on en apprend plus sur Hugo, peintre et dessinateur, que sur le texte d'Hugo. Peut-être parce que la voix de Vitez, pour ceux d'entre vous qui connaissent le cinéma de Romer, renvoie absolument à Manu chez Maud. Si vous l'avez vu, vous devez vous en souvenir. Vitesse et l'homme qui est le philosophe marxiste, qui est l'amant déçu de Maud et qui philosophe magnifiquement et dont la voix porte un discours extrêmement élaboré. Peut-être y a-t-il cela qui joue, donc une espèce de télescopage entre différentes strates de la mémoire du spectateur par rapport non pas à la connaissance d'Hugo, mais à la connaissance de Romère. Et puis il y a cette fascination pour la nature, pour des plans dont on se dit que on leur mettrait de la couleur, ce sont des plans de la collectionneuse. Le premier plan d'ouverture sur la mer avec deux personnes qui marchent sur la grève, je vous assure qu'on peut tout à fait, si on le fait avec du piqué, une belle couleur et l'image d'Alman Ross, penser que c'est une préparation presque de la collectionneuse, mais ça n'est pas le cas. Donc on a affaire aussi quand même, disons-le, à l'esthétique classique dont j'ai déjà parlé un petit peu, qui est l'esthétique du documentaire, qui transmet, croit-il, le savoir par la voie de commentaires. Dans les années 1970, qui a été une décennie de théorisation très très violente du cinéma, Pascal Bonitzer avait fait un texte important sur le documentaire et la voie de commentaires. C'est une période lacanienne. Donc effectivement, ce jeu de mots permet de comprendre beaucoup de choses et je trouve très économique sur la façon d'expliquer les choses. Effectivement, quand vous avez une voix qui vous affirme que c'est l'île de Sirk et pas une autre, vous êtes mal placé pour contester. Donc il y a cette voix effectivement très, très nette de Éric Romère qui dit des informations. Et ce qui est surtout très important, et c'est ça qui compte dans la voix off, c'est qu'on ne voit pas le corps. C'est que ce sont des voix qui ne sont pas incarnées. C'est ça qui fait la force de la voix de commentaire dans le documentaire. C'est que si vous aviez un corps, que ce soit celui de Romère ou celui d'Antoine Vitesse, vous auriez, même si ce sont deux hommes magnifiques physiquement, vous auriez de toute façon quelque chose qui introduirait des points d'accroche différents de votre attention, donc un doute possible. Le fait d'avoir une voix désincarnée augmente l'intensité d'affirmation dans le documentaire et fait passer des assertions, en tout cas discursives. Ce qui passe par l'image et le son et le montage est peut-être une autre affaire. Donc cette question-là est assez ironique parce qu'on a un peu l'impression, si je reprends Borges, que la carte s'ajuste au territoire. D'ailleurs, Romère le dit, il n'est pas fou, hein. Il le dit lui-même à un moment donné du commentaire, il dit « le paysage et la description semblent congruer ». Mais c'est ce qu'il fait lui-même. Lorsqu'il dit « une fleur isolée », paf, vous avez une jonquille. Lorsqu'il dit « les premières fleurs dans les brins d'herbe », vous avez le plan sur les pâquerettes dans les brins d'herbe. Alors là, est-ce que c'est le cinéma de Romère dont il s'agit ? Ou est-ce que c'est une conception de l'enseignement des lettres dans les années 60 ? Peut-être qu'il y a des deux. Quand je parlais tout à l'heure de Lançon en disant que je m'en excusais, mais j'avais une critique presque lançonienne moi-même, c'est quand même ce que, ici, Éric Romère met en marche. C'est-à-dire le retour vers l'origine biographique du texte que l'on étudie. Et c'est vrai que Roland Barthes, la nouvelle critique, n'était pas encore passé par là, même si le degré zéro de l'écriture avait été publié peu de temps avant, ça n'empêche qu'on était dans une façon d'aborder les textes qui renvoyait à l'auteur, d'abord avant tout, et non pas au signifiant, et non pas à la forme telle qu'elle a pu être étudiée par les structuralistes et par les linguistes. Donc ce qui est quand même très curieux, je trouve, dans ce film, c'est que, je ne sais pas si vous partagez ça, vous le direz, mais on a l'impression d'en apprendre autant sur le cinéma de Romère que sur les contemplations, et peut-être même plus, avec des plans comme les plans de nuages sur la peinture de Victor Hugo que sur ses textes. Si vous connaissez les dessins de Hugo, qui sont, on en a vu quelques-uns, mais ils sont aussi très climatologiques, très sur la façon dont la nuit peut être percée d'une lune. Il y a là un plan qui est fait par Romère, qui est vraiment qui aurait pu être du Hugo s'il avait une caméra. Et là, on a là un savoir qui vacille, parce que des choses sont dites sous l'égide d'une institution extrêmement respectable, le CNDP, avec quelqu'un de tout aussi respectable qui a ses titres, je ne sais pas s'il était capétien, enfin en tout cas, il était enseignant, qui est Éric Romère, et c'est de tout à fait autre chose qu'il s'agit. Et pourtant, on parle aussi des contemplations. Cette vacillation, bizarre. Facilement. Oui, c'est facilement, ça doit être ça. C'est facilement est quelque chose qui, justement, peut montrer ce qu'est l'autre chose. Et là, vous avez la conférencière qui a oublié de sortir le livre. C'est quelque chose dont, justement, Romère va parler. Quand, par exemple, il dit que la situation dans l'île de Cerque est un mensonge, et il est évident que ça parle, moi je crois, beaucoup plus de son cinéma. Souvenez-vous, dans Le Rayon Vert, quelques dizaines d'années après, vous vous souvenez de cette histoire, c'est donc des jeunes femmes dans un bocage qui pourrait ressembler par moments à ce que nous avons vu là, qui sont en train de vivre des histoires entre filles, qui se racontent leur vie, et il y en a une qui cherche l'amour désespérément, et à un moment donné, arrive, doit arriver, à la fin du film, le rayon vert, qui est cette espèce de phénomène physique qui se produit dans certaines conditions d'hygrométrie et de quantité de lumen, lorsque, sur l'Atlantique en particulier, le soleil se couche dans un certain climat, arrive au moment où le soleil disparaît, un point vert lumineux. Romer s'en sert à la fin du film pour en faire une sorte de petit miracle, et il a fait attendre 2 mois ses opérateurs pour obtenir un rayon vert, c'est-à-dire pour ne pas mentir selon son éthique du cinéma. Quand même, au bout de 2 mois, la production a probablement dû protester. Il a fait faire le rayon vert, à mon avis, à son grand dame, en effet spéciaux. Mais c'est dire que quand il parle du mensonge supposé d'Hugo, moi je crois qu'il parle surtout beaucoup de sa façon d'envisager le cinéma. Et lorsque il montre tous ces rochers qui semblent habités par des monstres, il rend quand même hommage au côté animiste d'Hugo. Donc, on est en train de zigzaguer entre ces deux conceptions. Et voici ce que dit Romère dans un texte qui date de 1961 à propos de la spécificité du cinéma, justement. On parle de spécificité, c'est fort bon. Mais il ne s'agit là d'ordinaire que d'une spécificité des moyens et non des fins. Il est certain, par exemple, que l'Aventura ou la Notte sont de grands films, et ce serait fort sot à ne considérer que les moyens de les taxer de littérature, car il y est fait des pouvoirs propres du cinéma, le plus juste et le plus original usage. Il n'est pas toutefois interdit de penser que l'espèce de beauté qu'il nous découvre a pu ou aurait pu être appréhendée avec un égal bonheur par le peintre ou le romancier. Je veux bien croire que le cinéma n'a rien inventé, moins encore que ne pensent ses détracteurs. Mais si l'on s'en tient au procédé d'expression ou motif dont il use, ce n'est pas un langage, mais un art original. Il ne dit pas autrement, mais autre chose. Une beauté sui generis qui n'est ni plus ni moins comparable à celle d'un tableau ou d'une page musicale que ne l'est une fugue de Bach à une peinture de Velázquez. Si le cinéma doit égaler les autres arts, c'est par la recherche d'un même degré de beauté. Telle est la seule fin commune que puissent se proposer les uns et les autres. Je rappelle qu'en 61, on en est encore à essayer de démontrer que le cinéma est un art comme les autres. Et qu'en 2010, on croit qu'on l'a démontré, et qu'à chaque fois qu'on essaie d'en parler dans des instances scientifiques élevées, on est obligé de reprendre l'argumentation. C'est un combat qui n'est pas terminé, et que, je pense, quelqu'un comme Romère, tout au moins son œuvre, peut nous aider à mener. Donc, des films qui nous emmènent là où on ne croyait pas aller en commençant de les voir, en voilà un autre. C'est un film, bon, je vais vous le laisser découvrir, c'est assez étonnant, j'espère que beaucoup d'entre vous ne le connaissez pas, et si on veut bien l'envoyer tout de suite. Oui, c'était donc « Ils attrapèrent le bac » de Dreyer. C'est un film de la prévention routière. C'est vrai ? Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il est là et que je l'ai montré. C'est un film qui est une commande du ministère Filmoldvag. Et ça date de, que je ne dise pas de bêtises, 1947. Ça s'explique sur un plan de commande. Il n'y avait pas de limitation de vitesse à cette époque-là au Danemark. Et la commande est faite pour impressionner, faire peur. Alors, bien sûr, on doit pouvoir dire que le message passe. C'est dangereux. En même temps, il y a tellement d'éléments mythologiques mis en place par Dreyer avec cette voiture qui est ornée d'un squelette, avec ce ricanement, oui, effectivement très daté dans le jeu de l'acteur qui représente la mort, qui vous a fait sourire, avec la barque qui est en train de traverser le Styx à la fin, qu'on a l'impression d'autre chose. On a bien sûr cette angoisse qui monte et qui est liée à la valeur, moi je dirais, anxiogène du montage, c'est-à-dire l'alternance entre des plans larges. Vous avez certainement remarqué comment les plans larges donnent l'impression d'une vitesse modérée, et les plans beaucoup plus rapprochés, voire les gros plans, on a l'impression d'une vitesse extraordinaire lorsqu'on voit simplement un fragment de la roue et la route qui défile dessous. On a l'impression qu'on est à 200 à l'heure, alors que quand on est en plan large, on se rend compte qu'on est à 70-80 bien tranquillement. Donc le rapport à la vitesse évidemment est déformé en 2010, parce que quand on le voit frontalement au milieu de l'écran, on se dit à côté d'une Ducati ou d'une belle moto bien puissante aujourd'hui, ça n'est pas grand chose. Mais l'organisation du montage fait que quelque chose de l'ordre du destin se profile, et pas simplement le fait d'attraper un bac ou bien le fait de mettre en garde contre la vitesse. On a là bien sûr une façon quadrillère de diriger ses comédiens. Vous avez certainement constaté comment la jeune femme est, dès le premier plan, extrêmement tendue, extrêmement inquiète, là où lui ne l'est pas. Et d'une certaine manière, tout le jeu de la comédienne n'est que la prolongation des premières marques rythmiques qui, dès l'ouverture du film, alors avant même l'image, donnent l'idée d'une tragédie. Enfin, c'est le début de la cinquième, c'est cette façon qu'aurait la mort de frapper à l'écran. Alors, avec des éléments qui sont un peu datés, c'est très possible, je pense qu'on peut tout à fait l'éprouver, mais en même temps, quelque chose d'un cinéaste fasciné par la vitesse, qui répond à une commande cinématographique qui lui permet de vivre, hein, c'est quand même clair, entre 1946 et 1956, Dreyer, qui était en train de se relever de l'échec de Dies Irae, qui était un magnifique film tel que nous le jugeons aujourd'hui, eh bien, avait besoin de manger. Hein, et il faisait donc ses films, différents films, sur des sujets extrêmement différents et variés, pour cet office du gouvernemental danois. D'une certaine manière, ça rappelle un cinéma dont Raymond Borde, le fondateur de la Cinémathèque de Toulouse, parlait. Il parlait des offices du cinéma français qui faisaient des films de vulgarisation. Mais alors là, c'était pas Dreyer qui les faisait, hein. C'était autre chose. En particulier, il y en a un sur le repassage qui est un véritable joyau de démonstration qu'il fallait que le féminisme arrivât à un moment donné. Et ça n'a rien à voir avec les repasseuses de Cavalier, hein. C'est simplement la description extrêmement précise de comment les femmes travaillent en repassant et comment elles sont asservies en repassant. Enfin, ça, c'était pas le but du film, mais c'est ce qu'on voit. Donc, il faut savoir que les films danois qui se font dans ce cadre-là se font avec ce qu'on appelle à la télévision aujourd'hui une bible, donc quelque chose d'extrêmement précis sur la façon de faire le film, et la marge était très faible. Mais peut-être aussi qu'il y avait des tâcherons qui faisaient ça et qui ne demandaient pas une marge importante de création. Dreyer, lui, la prend, et à partir du livre Les Mythes de Jensen, dont la nouvelle est extraite, il se réapproprie et il va vers quelque chose qui ressemble au film qu'il fera plus tard. Donc, on est là, vous voyez, dans ce film-là, en train d'aborder la question qui rôde depuis le début du mélange de la fiction et du documentaire, dans la façon dont la fiction intervient dans le documentaire. Ici, nous avons un documentaire. En même temps, c'est totalement une fiction et c'est un film de commande. N'essayons pas forcément de dissocier les trois. Peut-être que c'est justement ce mélange des trois qui fait qu'on a autre chose qu'un bête et simple film de vulgarisation. Alors voici maintenant, enfin, pour ceux qui sont venus le voir, René. Donc René est un film de Godard de 1976. Et René est un film en vidéo qui fait partie d'une série qui s'appelle 6x2 sur 6x2. Ouvrez la parenthèse, sur et sous la communication, fermez la parenthèse. Tout à l'heure, je vous disais que les années 70, c'était des années de théorie. On a même dit que c'était terroriste, comme, enfin, avec un H. cette façon de voir le cinéma à travers la théorie. Un grand, grand cinéaste comme Godard a su naviguer dans la théorie et en faire ce qui l'intéressait lui. Donc, il est allé vers un mathématicien, et pourquoi pas. Ce mathématicien, c'est René Thom. C'est le père de la théorie des catastrophes. Moi, je suis intimement persuadée, je ne peux pas vous le prouver, Godard n'est pas là pour nous le dire, mais que c'est le mot catastrophe qui a plu à Godard. C'est-à-dire se dire que dans les mathématiques, on parle de quelque chose de manière métaphorique et quelque chose qui forcément a dû intéresser Godard parce que son cinéma fonctionne beaucoup là-dessus. Donc, je vais vous laisser voir René, mais je voudrais vous lire 10 lignes d'un texte que René Thom nous a adressé en 1985 lorsque nous avions fait avec Jean-Paul Gorce un livre sur la façon dont Godard influençait le travail et l'imaginaire de gens qui n'étaient pas dans le cinéma. Donc on s'était adressé à des gens de partout, couturiers, Marguerite Duras, des Jean-Joseph Gou, des philosophes, des peintres, enfin Arroyo, enfin, des tas de gens très différents. Et voici ce que René Thom nous a répondu, et pour moi c'est le plus précieux de tout le livre. C'est vraiment, je trouve, un hommage à Godard comme on a rarement rendu. Quand Jean-Luc Godard est venu me filmer à mon institut, je m'attendais à être traité selon la géographie traditionnellement en usage à l'égard des célébrités de la science. Il n'en fut rien et je fus fort déconcerté. Les questions posées étaient d'une grande platitude et ne prêtaient à aucun développement. Quant au film lui-même, je n'en pris pas tout de suite connaissance. Des amis qui le virent aussitôt après m'avouèrent leur surprise, voire leur déconvenue. Environ 15 mois plus tard, j'eus enfin l'occasion de visionner René. Ce fut pour découvrir, sous un habillage irrévérencieux et souvent étonnant, une sorte de fidélité profonde à ce qui aurait pu être mon message. Une sorte de fidélité profonde, alors que justement c'est autre chose que nous allons voir. Ça m'a semblé être une des plus belles démonstrations de cette autre chose que dans la matière du savoir, le cinéma pouvait nous apporter. Juste pour information, René Thom est un des 11 médailles Fields françaises. Les médailles Fields sont l'équivalent des prix Nobel en mathématiques. Lui aussi a fait Normal Sup, comme tous les autres titulaires de cette médaille. Et c'est cet homme-là qui est un grand savant que vous allez voir avec sa petite blouse de nylon beige dans le film de Jean-Luc Godard que nous allons voir maintenant. Ah oui, la copie est très mauvaise, je vous l'ai dit déjà. Je vous prie de nous en excuser, mais vraiment, je pense qu'il n'en existe pas d'autre. C'est un film qui est, moi je dirais, plein comme un œuf. Il y a tout dedans, c'est assez difficile d'en parler. Mais disons que sur la question du savoir, je crois que ça nous renvoie à la première de nos rencontres autour de ce qu'est le spectateur et la place du spectateur. Ce que je trouve assez passionnant dans ce que fait Godard là, c'est qu'il ne fait pas ce que croit que fait René Thom. Quand il dit « vous êtes un médiateur entre moi et les autres, le spectateur ». En fait, non, Godard n'est pas du tout un médiateur. D'accord, il est invisible, on n'entend que sa voix. Mais la façon dont il prend place dans le discours intellectuel en forçant René Thom progressivement, c'est une espèce d'opération de séduction extraordinaire ce film, forçant René Thom à venir sur son terrain, c'est-à-dire à prendre au sérieux le langage. Effectivement, l'histoire de la catastrophe, c'est dit dans le film, je n'ai pas revu le film depuis 25 ans, donc je croyais avoir été très comme ça, fine dans ma divination. En fait, c'est dit dans le film que c'est parce que le mot catastrophe est une métaphore que ça l'intéresse. Et donc, la façon dont Godard amène René Thom à interroger son propre langage mathématique pour répondre à des questions qui sont des questions essentielles sur la vie, c'est vraiment le placer sur un terrain de philosophie. Et on voit que progressivement, René Thom rentre dans le jeu. Il y a quelque chose qui pourrait se comparer si on reprenait la méthode de Godard, qui pourrait se comparer à une grande scène d'un film qui s'appelle Le Rideau déchiré, dans lequel c'est la scène de suspense intellectuelle la plus forte que je connaisse avec ça. C'est un moment dans lequel Paul Newman, qui est un agent double, et c'est de faire parler un savant de l'autre côté du rideau de fer pour lui extirper tout ce qu'il sait et ramener ce savoir du côté de l'Ouest. Et il est poursuivi, il sait que la Stasi va arriver très très vite, donc il n'a que très peu de temps pour lui sortir ses informations, et Hitchcock fait exactement le même suspense que sur n'importe quel autre de ces séquences dont on dit qu'elles sont hitchcockiennes, sauf que là c'est le savoir, et on ne comprend rien, enfin sauf si il y a des mathématiciens dans la salle ou des physiciens, à ce qui est mis sur l'écran, mais ce qu'on comprend, c'est la lutte entre ces deux hommes pour essayer de faire que le savoir... L'objet, le petit objet A, le médium, dites comme vous voulez, le MacGuffin dirait en fait Hitchcock, passe de l'un à l'autre. Et nous, en tant que spectateurs, même si nous ne comprenons pas le sens des équations qui sont au tableau, nous comprenons l'enjeu de la lutte entre ces deux hommes. Et du coup, nous sommes le troisième partenaire. C'est-à-dire que nous rentrons dans une structure de désir mimétique, un peu comme chez René Girard, où on sait très bien que le désir, ça fonctionne à A plus B, mais par rapport à C. Et progressivement, ce qu'il y a de très très beau, je trouve, dans cet épisode de 6x2 sur Sous la communication, c'est que le spectateur devient le C. C'est-à-dire qu'il devient l'enjeu entre René Thom et Jean-Luc Godard. La question, c'est comment vont-ils arriver à faire que cette joute soit quelque chose qui soit vivant, parce que René Thom sait que ça va être vu par le spectateur, et mon Dieu, Godard est bien placé pour le savoir. Donc c'est nous l'enjeu, en fait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que rarement au cinéma, nous avons été aussi bien considérés. On suppose que nous allons comprendre. Et quand même, la théorie des catastrophes, je vous conseille d'aller voir de près ce que c'est. Si vous n'êtes pas spécialiste comme moi-même, je ne le suis pas, je vous assure, c'est rien. Enfin, je veux dire, même dans Wikipédia, qui est quand même un organisme de vulgarisation maximum, on ne comprend pas ce dont il s'agit. Et en même temps, là, on a l'impression d'avoir suivi. Parce que on a simplement le fait que deux êtres essaient de s'attirer l'un l'autre sur leur terrain, et qu'il y en a un qui surprend l'autre en lui proposant un système de pensée qui n'est pas le sien et dont il le met en appétit. Godard met René Thom en appétit de lui répondre à des questions auxquelles, mais vraiment, il n'a pas l'habitude de répondre du tout. Et je crois que le texte qu'il nous a envoyé est un texte extrêmement sincère, et j'imagine qu'il n'a pas dû être surpris quand il s'est vu. Non pas physiquement, mais dans la façon dont il parle et il travaille. Et c'est du travail. On le sait que c'est le thème principal de Godard, le travail et l'amour et le rapport entre les deux, et avec le troisième terme qui est l'argent. Et on est entre ces trois-là, l'argent est moins présent, mais c'est quel rapport il y a entre la libido et le travail, quel plaisir ça fait de travailler et de penser. Et ce film essaye de nous donner ça, essaye de nous donner le plaisir de penser. Donc, je disais plein comme un œuf, je trouve très très difficile d'avoir une suite. Donc, je vais faire un coup pendable au projectionniste. Et bien qu'il ait passé beaucoup de temps avec moi à caler un DVD supplémentaire, toutes mes excuses, on ne va pas le prendre, parce que je crois que le montage ne serait pas bon. Nous allons passer, si vous voulez bien, au dernier DVD. C'est le... Je vous donne le numéro. Parce que je ne veux pas dire le titre, toujours. 379. Et c'est quelque chose, pour terminer, qui va vous prendre 10 minutes, mais après on aura le temps de parler, de complètement différent, et qui pose la vraie question tout à fait à la fin. Parce que quand même, fallait y arriver. La fiction. Qu'est-ce que la fiction nous apporte comme savoir au cinéma? Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Et poser aussi la question de qu'est-ce que le cinéma du passé nous apprend d'aujourd'hui? L'extrait que vous allez voir là, je trouve, même s'il date de 1961, nous parle terriblement de la France d'aujourd'hui. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui s'est passé dans les dernières semaines, eh bien, d'une certaine manière, dans cette séquence-là, moi j'apprends quelque chose en revoyant pour la énième fois cette séquence-là, mais non plus pour les raisons qui faisaient que j'adorais revoir ce film, mais que brutalement, ça me parle de Paris en 2010. On peut l'envoyer? J'espère que c'est le bon. Voilà, c'était pour terminer sur de la fiction et la question que pose la fiction et le plaisir de la fiction. Alors je me suis dit que, n'en prenant qu'un exemple, il fallait que je prenne une espèce de condensé absolu avec non seulement le récit, la fiction, mais également la couleur, la danse, la sensualité et aussi, je dirais, la convention la plus affichée. Je n'en prendrai qu'un exemple. Vous pensez bien qu'un film qui a un budget pareil peut parfaitement se permettre d'avoir un très beau sol unifié qui ressemble à un toit de New York. Or là, vous avez vu comment on voit les délimitations du plancher de danse. C'est une façon de ne pas cacher qu'on est complètement dans la convention. Cette histoire raconte évidemment celle de Roméo et Juliette, vous en souvenez. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir comment ce mélange d'attributs qui vont faire appel à nos sens de spectateurs avec cette sensualité à fleur de peau au niveau de la musique, de la danse, des corps, des couleurs, etc., est quelque chose qui est traversé par des propos qui ne sont pas anodins, qui sont intéressants à entendre aujourd'hui, qu'on peut transposer et qui justement nous rappellent que, bon, dans les cités, pas si loin d'ici, on a des filles qui souvent ont envie de s'intégrer, des garçons qui souffrent d'un ostracisme et qui s'en sortent peut-être pas aussi bien et avec des attitudes différentes. Et ça permet juste de se dire que ce film a 40 à peu près, non plus, presque 50 ans. Et que d'une certaine manière, le cinéma, s'il nous apporte autre chose, c'est parce que, traversant le temps, il est pour nous l'objet d'un questionnement contemporain à notre présent. Et effectivement, partir de Painlevé, arriver à West Side Story, en passant par The Cat, The Revenant, The Slave, qui est un film de l'an dernier, c'est une façon de dire que à chaque fois, le cinéma, qu'il soit tourné en vidéo ou pas, vous avez bien compris que c'est vraiment pas le problème, hein, le support technique, mais le cinéma est un art qui permet de reposer à chaque fois différemment des questions. Ça ne veut pas dire qu'il apporte des réponses fermes et tranchées. C'est un art. Même la science n'apporte plus des réponses fermes et tranchées, comme nous l'a dit René Thom. Mais ça permet de dire que justement, il nous interroge et il nous aide à nous interroger. Alors évidemment, je terminerai par quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, qui est une question qui a été posée à Alain Prochiens. Alain Prochiens était quelqu'un, un de nos plus grands savants actuellement au Collège de France, et il faisait une conférence et quelqu'un lui a dit: concernant le cinéma, est-ce qu'il vous est arrivé de... Et Prochiens a interrompu la personne en disant non. C'est-à-dire, il a très bien compris quelle était la question. La question, c'est: est-ce qu'il vous est arrivé que le cinéma vous donne des idées par rapport à vos recherches scientifiques? La réponse était ferme et nette, c'était non. Et en même temps, parce que les savants, même les savants, ont des contradictions, la première image que Prochiens a montrée au Collège de France, c'était une image d'une fourmi. Oui, c'est une mouche. Dans laquelle il y avait eu, sur laquelle il y avait eu des manipulations génétiques et dont des pattes avaient poussé à la place des yeux. Cronenberg était passé par là, j'en suis persuadé, il le disait lui-même, mais non, le cinéma ne peut pas donner d'idées aux savants. Merci. Donc on a encore un peu de temps pour des questions pour ceux d'entre vous qui ne sont pas épuisés. Ou peut-être y a-t-il eu trop de questions? Ah non, il y a quand même courageux, oui.
Pour la première question, je suis... Excusez-moi.
Je vous en prie.
J'ai été très intéressé par les films que vous avez montrés. Et en ce qui concerne l'analyse du film de René Thom, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, dans la mesure où je considère qu'à chaque fois, René Thom, dans un dialogue tout à fait scientifique et précis, remettait à la place l'enfant qu'est Jean-Luc Godard, qui voulait être enfant, posant des questions à tout propos et hors propos. Et à chaque fois, René Thom revenait sur sa théorie, notamment sur la théorie de l'information, qui est très intéressante, de même que la théorie de la catastrophe, il a bien expliqué qu'il avait à son corps défendant, en quelque sorte, sans doute pour se faire mieux entendre, utiliser le mot catastrophe plutôt qu'un autre mot qu'il a utilisé et qui n'aurait pas aussi porté. Donc, même utilisant des mots un petit peu excessifs comme le terme catastrophe, René Thom a réussi à parfaitement expliquer ce qu'il voulait dire. Alors que si on partait dans les digressions, disons des flèches, des mots déstructurés que graffité en quelque sorte Godard sur l'écran, ça, on aboutissait à rien, à rien. On ne comprenait plus rien. Alors qu'avec René Thom, avec son langage tout à fait précis, arriver à quelque chose, notamment la théorie de l'information qui est très intéressante dans ce qu'il disait, dans ce qu'il nous a montré, alors que Godard ne nous aurait rien dit, on n'aurait rien compris. En revanche, ce que je peux dire et ce que j'ai remarqué sur ce film, c'est que Godard a parfaitement utilisé ce que lui avait indiqué René Thom, notamment dans son film sur l'accident. Voilà, merci.
Alors, plusieurs choses. Vous avez dit un film de René Thom, monsieur. C'est un film de Godard. Non, mais c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez pris votre intérêt, et que dire dessus ? Moi, je ne peux rien dire, sur le personnage de René Thom. Vous vous êtes fixé dans le triangle que nous formons sur René Thom. C'est votre liberté totale. Comment ?
Sur ce que René Thom disait.
Oui, d'accord. Mais d'accord, sur... Bien sûr. Et vous avez traité Godard d'enfant. Alors, c'est la seule chose sur laquelle je ne peux pas être d'accord avec vous. C'est-à-dire que Godard est tout sauf un enfant. Qu'il y ait la présence des enfants très forte dans la première moitié du film, qui revient à la fin également, est quelque chose qui, à mon avis, est lié à des épisodes difficiles et privés de la vie de Godard à cette époque-là. Mais ce n'est pas pour autant que Godard soit un enfant. Qu'il recherche à avoir l'attitude intellectuelle d'un enfant, probablement, mais pour de toute autre raison. C'est-à-dire que la force des enfants, ce qui nous ravit devant les enfants, c'est cette façon qu'ils ont d'accueillir le monde. C'est-à-dire que devant le monde, un enfant, il dit « un fauteuil, c'est un fauteuil ». Et il le considère et il l'accueille. Godard essaie de retrouver cette attitude-là. Et il essaie de la retrouver à travers la question du langage, à travers la façon dont, effectivement, il va accueillir chaque mot comme s'il était neuf, comme si c'était la première fois. Et il me semble, et je vois bien que nous ne sommes pas d'accord, et après tout, c'est bien ça un débat, hein, il me semble que René Thom prend progressivement plaisir à cette façon de travailler que lui propose Godard. Il tire à lui. Évidemment, vous avez raison, et à la théorie de l'information. Il revient, il la remet en place, bien sûr, mais il rentre dans le jeu. Il ne refuse pas du tout de rentrer dans le jeu de Godard. Alors qu'en fait, c'est à cette époque-là un très grand savant reconnu comme tel. Je ne sais pas s'il a vu Sammy Dyfield déjà ou pas, mais en tout cas, il était reconnu comme un immense savant, et donc il était habitué à une toute autre tonalité dans les entretiens. Ce que fait Godard est stupéfiant pour lui. C'est-à-dire que Godard se place au même niveau que lui et lui pose des questions depuis un autre champ cognitif, et c'est la raison probablement pour laquelle ça a intéressé René Thom. C'est-à-dire qu'effectivement, il a eu une espèce de défi. On prenait les mots au pied de la lettre. Alors ça, c'est le côté aussi bien maoïste que lacanien de l'époque qui fait qu'il prenait les mots au pied de la lettre. Et je pense qu'il y a quelque chose de très sérieux dans la façon dont Godard s'avance vers René Thom pour lui proposer ses cartes. Maintenant, là où je vous rejoindrai, c'est sur les graffitis, les flèches et les trucs et les machins qui sont très années 70. C'est un peu superflu par moment. Il y a des moments dans lesquels ça a beaucoup de sens, d'autres moments dans lesquels on se dit que c'est peut-être pas aussi réfléchi que ça et c'est peut-être moins intéressant. Moi, ce n'est pas ce que je conserverai du film. C'est vraiment dans les années 70, dans les films d'action, vous aviez des zooms intempestifs, peut-être critère d'époque à ce moment-là. Ça me semble être plutôt une fioriture que quelque chose de sérieux.
D'autres interventions ? Et bien que sans ça, on va se séparer provisoirement, se donner rendez-vous le 11 octobre, je ne me trompe pas, pour justement la mémoire, donc il faut s'en souvenir. Voilà.
Merci.